CJSO 101.7. La Tribune, une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la Tribune. Voici Sylvain Rochon.
Alors, vous avez, je l'espère, passé un bon long week-end, bien reposé. On va à l'émission aujourd'hui par faire nos connaissances sur la guerre froide, une période de forte tension géopolitique durant la seconde moitié du 20e siècle entre, d'une part, les États-Unis et leurs alliés constitutifs du bloc de l'Ouest et, d'autre part, l'Union des républiques socialistes soviétiques et ses États satellites formant le bloc de l'Est. Hey, ça a l'air savant, tout ça, là. Non, changez pas de poste. J'ai d'excellentes vulgarisatrices et d'excellents vulgarisateurs avec moi. Mes invités, 10 élèves du programme d'éducation intermédiaire individu et société de l'ISFL qui ont réalisé sur des actrices et des acteurs clés de la guerre froide des balados pour la qualité desquels ils ont, il y a quelques jours, mérité une bourse. Ils sont en studio en compagnie de leur prof David Foster. Les présentations après la pause.
Chez Meubles André Beaulieu, vous trouverez une vaste sélection de mobilier de salon, cuisine et chambre à coucher, de matelas et d'électroménager pour répondre à tous vos besoins. Nos conseillères pourront vous guider afin d'ajouter audace et élégance à votre décor. Profitez aussi de notre livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Visitez lemeublebeaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour découvrir nos collections et les nouvelles tendances. Meubles André Beaulieu, spécialiste en matière de mobilier de qualité de génération en génération.
La Fondation des Amis de la Bonne Entente vous invite à un déjeuner panel sous le thème « Les enjeux humains du sport professionnel » avec François Bourgemin, Anthony Beauvillier et Pierre Mondou. Au-delà des performances de jeu de ces professionnels du hockey d'origine sorelloise, nous allons connaître tout le travail que nécessite cette montée vers la Ligue nationale de hockey. Ce déjeuner panel sera animé par Yannick Lévesque de RDS et aura lieu le dimanche 14 juin à l'Hôtel de la Rive. Vous êtes invité à vous procurer vos billets en nous contactant au 450-808-3534. La Fondation des Amis de la Bonne Entente est un organisme de bienfaisance qui a à cœur de redonner à la société.
Chez McDo, savourez un café glacé ou une boisson de fontaine petit format à seulement 1$ plus taxe chacun. Puis c'est pas juste une promo qui dure une couple de jours, c'est tout l'été, seulement chez McDo.
Ne s'applique pas au café glacé aromatisé ni au café nuage glacé. Dans les McDo du Canada participants, taxe en suit, les prix ne s'appliquent pas à la livraison.
La Tribune, une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7. Avec Sylvain Rochon. De retour à la Tribune.
On va sortir de cette émission plus intelligent et plus instruit, les amis, grâce à 10 élèves du programme d'éducation intermédiaire de l'ISFL qui ont réalisé des balados sur la guerre froide. Assez exceptionnels, ces balados, pour remporter une bourse. On va vous en présenter d'ailleurs des extraits. Vous allez voir, c'est excellent. Accompagné de David Foster, qui est enseignant à Fernand Lefebvre, je reçois aujourd'hui Enzo Messier, Léane Pépin, Jonadab Schema, Jordan Ménard, Ali Girard, Maïli Germain, Sarah Jeanne Morgan, Camille Turcotte, Florence Salva et Guillaume Letendre. Alors, salut les documentaristes. Salut.
Bonjour.
Salut. Bon, alors d'abord, on va parler au prof, on va parler à David. Éclaire-moi donc, David, sur le programme d'éducation intermédiaire. C'est celui qu'on appelle communément le PEI. Puis quoi, est-ce qu'on retrouve un certain nombre de matières académiques regroupées sous ce parapluie-là? Comment ça marche, ça?
En fait, les élèves que vous allez écouter dans les prochaines minutes, mais en effet, c'est des élèves là, qu'on appelle communément le groupe PEI. Donc, autrement dit, c'est un parcours de formation particulier. Puis parmi leurs cours qu'ils ont, ils ont notamment « Monde contemporain ». Puis avec le projet.
C'est toi qui enseignes ça, Monde contemporain?
Oui. Okay. Et éducation financière également.
Okay. Alors, c'est des matières qui appartiennent toutes aux sciences humaines.
Oui.
Qu'on enseigne aux élèves pour qu'ultimement ils deviennent des citoyens informés et engagés. Est-ce que je suis dedans? Est-ce que j'ai une bonne lecture du programme?
Oui, jusqu'à présent, on est en plein dans l'objectif. Dans le fond, c'est les préparer à connaître le monde d'hier, les enjeux d'aujourd'hui, pour les préparer à devenir ce qu'ils vont être à leur majorité, des citoyens.
Venons-en donc à ces balados sur la guerre froide. Est-ce qu'ils ont été, tu vas dire que le jeu de mots n'est pas si bon que ça, là, mais est-ce qu'ils ont été chauds, tes élèves, à l'idée de fouiller cette période-là de la guerre froide, où ils ont dit, c'est quoi la guerre froide? Ouais, est-ce qu'ils étaient enthousiastes au départ, là?
Mais dans le fond, c'est sûr qu'eux, ils l'ont vu d'abord comme un travail à accomplir. Ensuite, c'est devenu un défi à travers les semaines, puis à travers la réalisation des balados. Dans le fond, c'est un sujet qu'on voyait en classe, mais je voulais leur permettre l'idée d'aller plus loin, de découvrir des choses au-delà des cahiers puis des manuels d'exercice, puis mettre en pratique certaines connaissances, certaines notions, certains talents qu'ils ont, puis faire un jumelage de toutes ces idées-là. Puis ça a donné les projets balados là, que vous avez entre les mains.
OK. Alors, rappelons-le pour nos auditeurs. Où dans le temps se situe la guerre froide. On est dans la seconde moitié du 20e siècle. C'est une période de forte tension là, géopolitique. Hein.
En effet, on est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. On vient à peine de finir les affrontements, que déjà l'alliance entre les démocraties et le monde communiste s'est effondrée. Dans le fond, c'est une période de tension, c'est une période d'affrontement dans toutes les sphères, dans tous les domaines. Le but étant de répandre un modèle et d'avoir le plus de pays dans son camp. Puis c'est relié directement avec la matière que les élèves apprennent, là, tension et conflit. Fait que c'est vraiment l'exemple parfait pour illustrer ces concepts-là. Puis c'est des événements qui font le parallèle entre le monde d'aujourd'hui et le 20e siècle. Mais c'est vraiment une époque de peur, de crainte.
OK. David, je vais tout de suite me tourner vers une première équipe de deux élèves, Enzo Messier et Léane Pépin. Bonjour, Enzo.
Bonjour.
Bonjour, Léane.
Bonjour.
Alors, vous autres, c'est au rôle de Richard Nixon dans cette guerre que vous vous êtes attardé. Pourquoi ce choix-là?
En fait, c'est un personnage qu'on avait déjà entendu son nom. Ça nous a interpellé quand on a vu la liste de propositions qu'on s'est fait donner. On s'est dit pourquoi pas faire des recherches un peu plus approfondies sur le sujet quand un nom qu'on connaît un peu mais qu'on n'a pas trop d'informations est quand même intéressant.
Léane, fais signe que oui. Veux-tu ajouter quelque chose?
Étant un ancien président américain, on savait qu'on allait trouver assez d'informations pertinentes pour faire un balado riche.
Ouais, notamment sur un certain Waffergate.
Oui, hein? C'est un politicien assez controversé, on peut dire, donc ça allait être intéressant d'en apprendre plus.
Bon, savez-vous quoi? On va écouter tout de suite un extrait de votre balado.
Aujourd'hui, nous nous concentrons sur un personnage bien connu, Richard Nixon. Pouvez-vous nous le décrire brièvement?
Pour faire court, Richard Nixon est né le 9 janvier 1913 en Californie et décédé le 22 avril 1994 à New York. Avant d'être président, il était le sénateur représentant de l'État de Californie de 1950 à 1953. Ensuite, il fut président des États-Unis de 1969 à 1974.
Rappelons-nous aussi que sa démission fut la première de l'histoire des États-Unis, causée par le scandale du Watergate. Mais penchons-nous plus précisément sur le sujet.
Effectivement, le scandale du Watergate implique des personnes reliées à M. Nixon qui ont espionné le Parti démocrate dans l'immeuble du Watergate et qui ont tenté de cacher l'affaire. Même à ce jour, cet événement est encore synonyme de crimes politiques et de corruption.
Maintenant que nos auditeurs sont plus informés sur le sujet, pouvez-vous nous dire en quoi Richard Nixon et ses politiques ont été influencés par la guerre froide?
Pour commencer, il applique la diplomatie triangulaire qui consiste à essayer de résoudre les tensions entre l'URSS, la Chine communiste et les États-Unis. Cette méthode visait à éviter à tout prix le déclenchement d'une guerre nucléaire. Il a commencé en effectuant un voyage politique en Chine au cours de février 72. Le voyage a été médiatisé de A à Z aux États-Unis, suivant Nixon dans ses déplacements culturels. Les Américains ont grandement apprécié ce voyage qui leur a prouvé la nécessité des relations en ces temps de guerre froide, malgré leur point de vue anticommuniste.
Pour donner suite à ses exploits accomplis en Chine, l'URSS prend la décision de l'inviter à son tour pour négocier des accords sur le contrôle des armements, comme les accords SALT, et de calmer les tensions de la guerre froide. Ces accords consistent à limiter le nombre de missiles déployés sur la terre ferme et embarqués dans les sous-marins.
J'aimerais conclure en parlant de la guerre du Vietnam étant la raison principale de son élection. On pourrait croire à une grande réussite politique car il a réussi à sortir les Américains de la guerre, mais c'est un échec puisque le non-vietnamien a finalement envahi le sud du Vietnam et engendré des milliers de morts. Avant d'y arriver, il a fait face à de nombreux échecs comme l'envahissement du Cambodge en 70. Il y est finalement parvenu en ayant recours à la vietnamisation qui a mené aux accords de Paris le 23 janvier 1973.
Donc, comme nous avons pu le comprendre aujourd'hui, Richard Nixon fut un grand homme ayant réussi de grandes choses, surtout en politique extérieure, malgré ses décisions parfois douteuses qui ont mené à la fin de sa carrière.
Ils sont fiers de leurs effets sonores. Je les voyais le ricaner en les entendant. À la radio de CJSO, parce que vous ne saviez pas que ça allait être diffusé, ça, et que tous les Sorellois pourraient l'écouter, ce balado-là, au moment où vous l'avez fait.
Non, c'est ça.
Il vous a valu, ce balado, le prix d'excellence. Vous y avez travaillé de longs mois, du choix du sujet là, à la remise du balado. On parle, j'ai vu vos notes, là, d'octobre à avril. C'est 7 mois. Là, je comprends que c'est peut-être pas des 7 mois intensément. Qu'est-ce qui a été le plus laborieux, Enzo et Léane?
Je pense de vulgariser vraiment bien l'information, parce que même pour nous, c'était un sujet assez compliqué, la guerre froide, la politique. Donc, premièrement, il fallait le comprendre nous-mêmes pour ensuite réussir à l'expliquer pour que tout le monde puisse le comprendre, même ceux qui n'ont pas le contexte. Donc, ça a été plus difficile. Puis sinon, pour ma part, le montage, moi, j'ai vraiment laissé ça à Enzo parce que c'est pas ma force.
Ah, c'est lui le spécialiste monteur.
Oui, je me suis.
Mais t'as fait ça avec quoi? Est-ce que t'as fait ça chez toi, dans ton sous-sol, avec un logiciel?
Oui, exactement. Chez moi, sur mon ordinateur, avec l'application CapCut, rien de
est-ce fou. Que tu te connaissais, des talents de monteur?
Ça fait plusieurs années là, qu'on a différents projets de balado, des festifilms ou qu'on monte des films. Fait que je vous dirais que j'ai déjà abordé le sujet, mais je suis pas un expert non plus.
L'histoire n'a pas conservé de Nixon. J'en parlais un petit peu avant qu'on entende votre balado. Là, un souvenir bien favorable, c'est celui du Watergate qui nous revient immédiatement quand on entend son nom, là, cette affaire d'espionnage qui a abouti en 1974 à sa démission à titre de président des États-Unis. C'est mérité ou immérité qu'on se rappelle que de ça, que du Watergate à son sujet? Qu'en pensez-vous?
C'est sûr que c'est une histoire qui a choqué beaucoup de monde, mais je pense qu'il a quand même accompli des belles choses. Là, quand on passe à ses voyages en Chine, tout ça dans le but d'apaiser les tensions, d'éviter la guerre, je pense qu'avec beaucoup d'erreurs, oui, mais avec beaucoup de bonnes pensées dans ses actions.
Léane, ben,
compléter. Ouais, je suis d'accord avec ce qu'Enzo a dit. Là, comme on a conclu dans notre balado, même s'il a fait des choix plus douteux dans sa carrière, il a quand même accompli là, de grandes choses pour les États-Unis.
Ce projet de balado sur Nixon, est-ce qu'il vous a donné le goût du documentarisme, grand mot, est-ce qu'il vous a donné le goût de ce domaine-là?
C'est sûr que c'est quand même intéressant à faire. La vulgarisation d'informations, c'était quand même... c'était bien à faire, là, on s'informe beaucoup. Mais c'est quand même une grosse tâche. Je dirais qu'à faire comme travail de tous les jours, là, c'est demandant.
Est-ce que votre génération, vous la sentez informée, vous la sentez engagée? Qu'en diriez-vous?
Mais je pense qu'on a beaucoup plus accès à l'information qu'avant avec les Internet, les réseaux sociaux. Mais au contraire, on n'est pas autant informé parce qu'on prend moins le temps de l'être, je pense. Mais c'est sûr qu'avec des projets comme ça à l'école, le monde contemporain, ça nous permet de mieux comprendre le monde, mais c'est ça.
Merci beaucoup, Léane et Enzo. C'était très intéressant. On va se coucher moins niaiseux grâce à vous deux, là. Je me tourne maintenant vers Jonadab Shema et Jordan Ménard. Vous avez choisi, vous autres, comme personnage de la guerre froide, Che Guevara. Qu'est-ce qui vous attirait chez lui? Vous aviez déjà vu son visage sur un T-shirt, une affiche ou tatoué sur quelqu'un, comment...
Ouais, exactement. Che Guevara, de son vrai nom, Ernesto, c'est un visage iconique de la guerre froide. Comme on l'a dit dans notre balado, sur des affiches puis des chandails, c'est un visage qu'on voyait fréquemment. Fait que moi puis mon coéquipier Jonadab, ça nous a vraiment donné le goût d'en apprendre plus sur sa personnalité puis sur ses accomplissements. Donc c'est vraiment ça qui a fait en sorte qu'on a fait de la recherche sur lui puis qu'on a essayé d'aller creuser plus loin sur sa carrière.
Peux-tu compléter, Jonadab? Attendez, checker sa voix radiophonique, là. On va se croire à Radio-Canada. Là.
Et je dirais aussi, vu que c'est un personnage quand même connu, donc même sans avoir fait de recherche, le nom de Che Guevara, quand on le voyait sur la liste, ça disait tout de suite quelque chose. Donc vu qu'on savait qu'il fallait, que c'était quand même un travail de recherche, où il fallait vraiment approfondir, pour nous, c'était une très bonne option de prendre un personnage sur qui il y aurait sûrement beaucoup d'informations.
Très bien. Alors, si vous voulez, on va maintenant laisser votre balado parler. Il a remporté ce balado, le prix Découverte.
Ernesto Guevara de la Serna naît en 1928 en Argentine, dans une famille de la bourgeoisie créole. Rien ne le prédestine à devenir l'icône d'une révolution. Mais à 23 ans, il enfourche une moto et traverse l'Amérique latine avec son ami Alberto Granado. Ce voyage change tout. Il voit des mineurs exploités au Chili, des paysans sans terre au Pérou, des malades abandonnés par le gouvernement, et partout la même chose. La pauvreté organisée au profit d'intérêts étrangers, souvent américains. Ce n'est pas un livre de Lénine qui fait de Che un révolutionnaire. C'est la réalité brute qu'il a regardée en face.
On est alors dans les années 50. Le monde est coupé en deux. Washington d'un côté, Moscou de l'autre. Et l'Amérique latine? Comme beaucoup d'autres endroits dans le monde, c'est un terrain de jeu. Une région entière transformée en échiquier idéologique. En 1954, Che est au Guatemala quand la CIA orchestre le renversement du président Jacobo Arbenz, coupable d'avoir voulu redistribuer des terres appartenant à la United Fruit Company, une entreprise américaine. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est documenté, avoué, et Che assiste à ça en direct.
Pour lui, c'est la confirmation. Le capitalisme américain ne défend pas la liberté, il défend ses actifs. Il rejoint Fidel Castro à Mexico, débarque à Cuba sur un bateau de 82 hommes, le Granma, en pleine nuit. Ils sont presque tous capturés ou tués dans les premières heures.
Et on coupe ça dans le meilleur, parce qu'on n'a pas le temps d'aller plus loin. Che Guevara, héros pour les uns, ennemis pour les autres. Est-ce que la recherche vous a mené à, comment dire, à choisir un des camps?
Pour ma part, je sais que Che Guevara, c'est un personnage qui en a inspiré plus d'un après ses accomplissements.
Oui. Avec raison?
Selon moi, oui. Mais je suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qu'il a fait parce que il a quand même été violent et il a pas nécessairement été pacifique. Mais sinon, je trouve qu'il a fait accompli de belles choses puis il a le mérite. Il mérite ce que le monde...
Bon, alors, disons, je vais faire du millage sur ce que tu viens d'affirmer. Là, c'est pas un saint, il a ordonné des exécutions. Oui, il croyait que la violence était un outil légitime de libération. Plusieurs l'ont adulé. Est-ce qu'il était charismatique? Il savait parler aux foules? Il savait convaincre?
Moi, je pense qu'il était sûrement charismatique vu qu'il a quand même mené... C'est ça, une petite armée, on va dire, pour aller renverser un gouvernement. Et c'était un peu comme une mort certaine, parce que c'était quelques hommes qui allaient attaquer, c'est ça, un gouvernement déjà en place. Et je crois que ce qu'on peut, pour répondre à la question tantôt, pour ajouter, ce qu'on peut noter d'intéressant, c'est qu'il s'est embarqué, il a, dans cette lutte, à cause des injustices qu'il a vues, parce qu'il n'est pas né pauvre nécessairement, il est quand même grandi dans une bonne famille. Il était médecin à l'origine, et c'est vraiment les injustices qu'il a vues qui lui ont donné envie de mener cette lutte.
Il vous a fallu, pour bâtir ce balado dont on a présenté là, qu'un extrait, qui nous laisse sur notre appétit, travailler plusieurs mois. Combien de mois y avez-vous mis?
Honnêtement, c'était surtout la recherche qui prenait du temps, parce que justement, vu qu'on a gagné le projet Découverte, parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel on s'est focalisé, de trouver des informations. Oui, ouais. C'est ça, des informations que pas beaucoup de gens savaient.
La documentation sur Che Guevara, elle est volumineuse. Mais comment l'avez-vous trouvée, cette documentation? L'avez-vous trouvée le plus souvent orientée ou le plus souvent objective?
Surtout objective. On essaie surtout de savoir c'est quoi les... choses qu'il a accomplies ou les éléments de sa vie que pas beaucoup de gens savaient. Comme par exemple qu'il est allé à l'ONU et qu'il s'est opposé aux États-Unis là-bas.
Oui, exact. Pour que nous, par la suite, on puisse bâtir notre propre opinion sur le sujet puis vulgariser ça dans notre balado.
T'es-tu acheté un T-shirt de Che Guevara après?
Non, mais j'ai failli.
Ah, t'as failli. Et puis c'est pas... L'avenir dira si tu succomberas à un moment donné.
Ouais, je pourrais.
Qu'est-ce qui vous a particulièrement plu de ce médium-là, qui est le balado, que d'autres appellent le podcast, là? Qu'est-ce qui vous plaît de ce médium?
C'est assez dynamique. C'est plus qu'un texte à l'écrit ou tout autre projet qu'on fait à l'école. Puis, ça touche à plusieurs de nos compétences aussi, pas juste la recherche, etc. Il y a aussi le montage... nos capacités à s'exprimer, etc. Donc, c'est un projet qui touche à beaucoup de choses. C'est ça qui nous a vraiment plu, je pense, du projet.
Est-ce que vous avez envie de persévérer dans le balado, le podcast, d'en réaliser d'autres, ne serait-ce que pour votre propre plaisir?
Oui, honnêtement, c'est une bonne idée. De continuer à en faire pour des sujets, d'autres sujets, etc. Puis c'était vraiment le fun à faire.
Toi, Jordan, ta voix radiophonique, est-ce qu'on va l'entendre à une fréquence quelconque à un moment donné? Est-ce que tu y as pensé à ça, la radio, la télé? Tout le monde a un petit sourire là, quand on entendait le balado. Puis c'était un sourire de satisfaction, là.
Bien, c'est sûr que je pourrais dire maintenant qu'une petite graine a été plantée. Surtout qu'on me dit souvent que j'ai une voix radiophonique et que je devrais penser à la radio. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose que je pourrais peut-être continuer un jour.
Ben, tu viendras en stage à CJSO à un moment donné. Merci beaucoup, Jonadab et Jordan. Merci à l'autre équipe. On va aller à la pause et on est de retour immédiatement après.
La bonne nouvelle économique vous est présentée par la Caisse Desjardins Pierre de Sorel, le magazine Contact Affaires et Olivier Kia Sorel Tracy.
Après 9 années d'exploitation sur les 20 prévues au contrat signé avec Hydro-Québec, Parc éolien Pierre de Sorel a injecté dans la MRC de Pierre de Sorel un total de 26 559 898 $. Les revenus liés à la production d'énergie ont atteint au cours du dernier exercice financier un sommet historique de 10 093 584 $, permettant une redistribution globale de 6 109 135 $ dans la région. De cette somme, 5,5 millions ont été versés directement à la MRC, tandis que plus de 602 000 $ ont été distribués en redevances aux agriculteurs et aux municipalités locales. Cette performance repose sur une fiabilité technique exemplaire, le parc ayant affiché un taux de disponibilité de 97,7% au cours de la dernière année.
La bonne nouvelle économique vous a été présentée par la Caisse Desjardins Pierre de Sorel, le magazine Contact Affaires et Olivier Kia Sorel Tracy.
Mardi dans Valérie l'après-midi, Sylvain Rochon y sera pour nous livrer les informations régionales. On ouvre la boutique de souvenirs de Jean-Pierre Gravel, créateur de Moments. Et notre échange sur le Canadien de Montréal avec le journaliste Richard Labbé. C'est un rendez-vous de 15h30.
L'événement Plein la vue Ford est en cours. Profitez d'une offre qui en met plein la vue sur le F-150 STX 2026 avec l'ensemble des corps noirs. Visitez votre détaillant Ford du Québec dès aujourd'hui.
La Tribune, une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
Alors, 10 élèves du PEI, Programme d'éducation intermédiaire de l'école secondaire Fernand Lefebvre, ont réalisé des balados sur la guerre froide, assez exceptionnels pour remporter une bourse. Alors, ce sont eux qui m'entourent ce midi. Et c'est au tour de Ali Girard et Maëlie Germain d'être là. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que c'est une première pour vous à la radio?
Oui, c'était une première.
Ouais, moi aussi.
Bon, ben j'espère que ce ne sera pas une dernière. Le personnage de la guerre froide auquel vous vous êtes intéressé, c'est Winston Churchill. Qu'est-ce qui vous a fait vous y intéresser? Est-ce que c'est un trait de sa personnalité? Est-ce que c'est sa feuille de route? Pourquoi Winston Churchill? Ben, c'est un nom connu, là.
Oui, on l'avait vu dans nos cahiers en histoire. On commençait à parler de la guerre froide quand ils nous annonçaient le projet, puis on a tout de suite vu Winston Churchill, donc on s'est dit qu'on voulait plus s'y intéresser parce qu'on l'avait vu plusieurs fois dans mon cahier d'histoire, puis tant qu'à le voir, pourquoi pas plus l'explorer.
Ali, un complément de réponse?
Non, je suis complètement d'accord. En voyant le nom sur la liste, on s'est dit qu'on allait prendre lui parce qu'en même temps, oui, c'est un nom connu, mais c'est pas vraiment tout le monde qui sait tous les exploits qu'il a faits.
Mm-hmm. David, on peut peut-être éclaircir quelque chose. Ils avaient un certain nombre de choix parmi lesquels ils ont décidé. Là,
oui, il y avait quand même une liste de noms de fêtes parce que la guerre froide, c'est un sujet qui est vaste dans tous les domaines. Fait qu'on leur laissait environ une quarantaine de choix possibles pour quand même leur permettre à la fois de choisir, mais sans trop s'égarer dans différentes directions.
Très bien. Alors, on va écouter un extrait du balado sur Winston Churchill de Ali Girard et Maëlie Germain.
Nous sommes en mars 1946 dans une petite ville du Missouri. Un long cigare s'avance vers le micro. Winston Churchill s'apprête à prononcer un discours qui va changer le monde et donner un nom à une nouvelle ère, la guerre froide. Winston Churchill, c'est un des personnages les plus marquants du 20e siècle. Il est né en 1874 dans une famille riche et influente en Angleterre.
Très jeune, il s'intéresse à l'armée, au voyage et à l'écriture. Avant de devenir un grand politicien, Churchill est soldat et journaliste. Il adore raconter ce qu'il vit et plus tard, il écrira même des livres qui lui vaudront un prix Nobel de littérature.
Mais c'est surtout pendant la Seconde Guerre mondiale qu'il devient célèbre. En tant que premier ministre du Royaume-Uni, il encourage son peuple à ne jamais abandonner, même quand tout semble perdu. Ses discours motivants deviennent donc sa marque de commerce.
En 1947, la guerre froide est déclarée. C'est une période de forte tension entre les États-Unis et l'Union soviétique qui a duré jusqu'en 1991. Ce n'était pas une vraie guerre avec des batailles directes, mais plutôt un affrontement idéologique. D'un côté, le capitalisme et la démocratie. De l'autre, le communisme. Elle est caractérisée par la propagande, la méfiance, l'espionnage et la menace nucléaire.
Durant cette période, il n'est plus premier ministre, mais il reste une voix très respectée. En 1946, il prononce un discours important aux États-Unis où il parle d'un rideau de fer qui divise l'Europe.
From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent.
Avec cette expression, il va avertir le monde que l'Union soviétique impose un communisme très strict dans plusieurs pays.
Churchill meurt en 1965, mais son influence est encore énorme aujourd'hui. On se souvient de lui comme d'un leader courageux, d'un excellent orateur et d'un homme qui savait reconnaître les dangers avant les autres.
Ce balado leur a valu le prix technique. L'extrait est trop court pour vraiment témoigner de sa valeur sous cet angle technique-là. Mais parlez-moi de cet aspect, de la façon dont vous avez voulu monter votre balado pour en rendre l'écoute là, dynamique, pour que l'attention de l'auditeur soit jusqu'à la fin soutenue. Comment avez-vous procédé?
Nous voulons intégrer un moment de son discours, parce qu'on trouvait ça...
Oui, ça, on l'a entendu, ouais, ça.
Moment très important pour lui, parce que lui a réussi à influencer les personnes en utilisant sa voix. Qu'est-ce que l'apport des personnes durant la guerre froide n'ont pas fait? Ils ont plus utilisé des gestes, ils n'ont pas vraiment utilisé leur voix. Donc, nous, on voulait vraiment utiliser une de ses vidéos. Donc, durant tout le balado, on a intégré des photos pour illustrer tout.
Ah oui, parce qu'il faut le dire, là, oui. C'est pas un podcast uniquement sonore. Il y a un support visuel à la radio, évidemment, difficile de vous le montrer. Mais donc, oui, il y a des images pour supporter votre propos, là.
Ouais, ça suivait tout le long qu'est-ce que nous disions. Mais il y avait une photo qui était ajoutée pour illustrer à quoi il ressemblait, comment il vivait, jusqu'à la vidéo où on le voit parler.
Vous avez aimé ça, cet aspect technique-là, d'ajouter des images, d'ajouter des documents, des archives sonores?
Oui, on s'est dit que ça allait rendre notre balado un peu plus intéressant s'il y avait également un support visuel à regarder en même temps que nous écouter. Et en même temps, ça l'a rendu comme le projet un peu plus intéressant à faire parce qu'on est au pays, on fait beaucoup de projets avec du montage, donc on était vraiment habitués avec le logiciel. Donc en même temps, c'est pour ça qu'on a décidé de s'acheter comme une petite tâche de plus.
Alors, c'était pas votre première expérience avec ce médium-là qui est le balado?
Non, mais nous n'avons jamais fait de balado simple. L'année passée, on a dû faire une interview sur un sujet en histoire, mais la plupart du temps, on fait du montage pour nos festifilms, comme Enzo a dit plus tôt.
Est-ce que ça vous a donné envie de persévérer, d'en réaliser d'autres balados?
Ben, c'est intéressant à faire. On découvre beaucoup de choses, puis en même temps, tu peux tout le temps t'améliorer. Oui, ça serait intéressant d'en faire un nouveau.
Un mot sur Churchill, il meurt en 1965, mais son influence, peut-on lire dans votre script là, est encore énorme aujourd'hui. Il vous fascine visiblement. Je vais vous citer. On se souvient de lui comme un leader courageux, d'un excellent orateur et d'un homme qui savait reconnaître les dangers avant les autres. Je veux vous entendre élaborer là-dessus sur votre fascination pour Churchill.
Nous avons écrit ça parce que encore aujourd'hui, beaucoup de personnes le connaissent pour avoir utilisé sa voix, comme je disais précédemment. Lui n'a pas fait vraiment d'action, il a plus prononcé un discours devant des milliers de gens pour dire à quel point le communisme commençait à être beaucoup trop grand dans la population.
Vraiment un discours qui a marqué l'époque,
oui,
là.
Donc, ouais. Ça nous a vraiment fasciné qu'un simple discours puisse encore être entendu et diffusé. Donc...
Merci beaucoup Ali et Maëlie, puis compliments renouvelés pour votre balado, très intéressant. Merci beaucoup. Aussi. On va aller aux publicités et on va revenir ensuite avec nos deux dernières équipes de documentaristes.
Cette semaine chez Métro, le beurre sélection 454 grammes est offert à 4,75 seulement. Profitez-en! En plus, le homard vivant au prix membre mois est offert à 8,66 la livre ou 19,9 le kilo seulement. Et ça, c'est pas des histoires de pêche. Pour des économies en série et pour profiter de 7200 produits en promotion, rendez-vous chez Métro. Quantité limitée selon la pêche, des conditions s'appliquent, détails en magasin ou sur métro.ca.
Cette pause musicale vous a été présentée par le Festival Bière, Vin et Terroir qui vous offrira gratuitement le spectacle de Jérôme 50 le vendredi 26 juin à Sainte-Anne-de-Sorel.
Chez Meubles André Beaulieu, vous trouverez une vaste sélection de mobilier de salon, cuisine et chambre à coucher, de matelas et d'électroménager pour répondre à tous vos besoins. Nos conseillères pourront vous guider afin d'ajouter audace et élégance à votre décor. Profitez aussi de notre livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Visitez le meuble beaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour découvrir nos collections et les nouvelles tendances. Meubles André Beaulieu, spécialiste en matière de mobilier de qualité de génération en génération.
La Tribune, une présentation de Meubles André Beaulieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
On était en train de me donner un cours de phonétique, là. Mes prochaines documentaristes invitées sont Sarah Jane Morgan. Et je dis depuis le début Sarah Jane. Et Camille Turcotte. Alors, bonjour Sarah Jane et Camille.
Bonjour.
Vous allez bien? Vous êtes contente d'être ici?
Ouais. Oui.
Ouais, c'est le plus beau jour de votre vie. Bon, il ne faut pas en mettre, là. Votre balado retrace le rôle de Margaret Thatcher pendant cette période de la guerre froide. Qu'il s'agisse d'une femme politique là, peu nombreuse dans ces années-là, est-ce que ça a été pour quelque chose dans votre choix?
Oui, c'est sûr que ça a été pour quelque chose parce que, tu sais, on avait eu une liste de personnes, puis il n'y avait pas énormément de femmes sur la liste, mais on s'était dit que...
Ouais, David, t'avais forcé un peu plus, là. Non, mais c'est vrai qu'elles étaient, relativement rares, là, sur la scène politique à l'époque.
Ben, c'est ça, puis tu sais, c'est parce qu'on sait qu'elle a quand même un bon caractère, comme on peut dire.
Oui.
Fait que,
oui.
On a quand même beaucoup d'affaires à dire sur cette personne-là.
OK. On la surnommait la Dame de Fer.
Oui, exactement.
Ça ne doit pas être non plus étranger à votre envie d'en savoir davantage, j'imagine.
Ah, c'est ça.
OK. Alors, on va écouter tout de suite un extrait de votre balado.
Premièrement, Camille, que faisait Margaret avant d'entrer en politique?
Madame Thatcher a grandi dans les années 20 et 30 et a ainsi développé une haine envers la dictature.
Oh, d'accord, c'est vrai, le communiste et le fasciste étaient à leur apogée à ce moment-là.
Oui, et c'est pour ça qu'environ vers 1950, elle fait son apparition dans la politique avec des idées très conservatrices. Par exemple, la responsabilité individuelle, l'importance des traditions, etc. En 1975, elle a gagné les élections en tête du Parti conservateur et a créé une révolution libérale.
Margaret a appliqué des politiques économiques très dures, en prônant la privatisation et la réduction du rôle de l'État, ce qui a entraîné une grande hausse du chômage.
En 1970, Margaret devient ministre de l'Éducation. Et en 1979, celle-ci marque l'histoire en devenant la première femme première ministre du Royaume-Uni.
Je comprends mieux maintenant pourquoi on l'appelait la Dame de Fer. Rien ne pouvait se mettre sur son chemin.
Madame Margaret Thatcher, alliée stratégique avec les États-Unis de 1981 à 1989, elle était la confidente du 40e président américain Ronald Reagan. Ils avaient la même haine envers l'URSS.
OK, donc c'était vraiment une voix importante dans le camp occidental.
Oui, exactement. C'est pour ça qu'en 1984, elle a rencontré le futur dirigeant soviétique Mikhail Gorbatchev. Margaret lui a posé des questions en rapport avec les droits de l'homme dans l'Union soviétique.
C'est vrai, Monsieur Gorbatchev souhaitait moderniser l'URSS.
C'est pour cette raison qu'à la fin de cette rencontre, Margaret a prononcé cette fameuse phrase qui en a étonné plus qu'un. Elle a dit « C'est un homme avec qui nous pouvons faire affaire ».
On va se souvenir de cette phrase-là, puis on va se souvenir du rire diabolique que vous avez intégré à votre balado. Vous avez remporté avec ce balado le premier prix coup de cœur du jury. Comment vous avez reçu cette distinction-là? Animé de quel sentiment vous l'avez reçu?
Ben c'est le fun quand même. T'sais, c'est sûr que c'est un beau compliment, on peut dire. Là.
Oui, ça veut dire qu'on s'est démarqué un peu, puis on a tellement eu du plaisir à le faire qu'on était vraiment heureuse.
Surtout la partie le rire, rire diabolique.
Ouais, ouais, ouais.
Oui. C'est un balado qui vous a demandé beaucoup de travail?
Oui, c'est quand même. Ben
quand oui. même, ben on a, c'était beaucoup de recherches, c'est sûr, c'est un balado, on voulait informer les gens, on voulait les sensibiliser, puis aussi c'était beaucoup le montage, il nous a pris un peu de temps parce que on voulait rajouter ça plus divertissant pour les auditeurs.
Fait. Vous vous êtes abreuvé pour le construire le balado à plusieurs sources?
Oui.
Ouais, quand même.
Oui, plusieurs sources qu'on a trouvées sur Internet, comme je pense, le Devoir, Radio-Canada, on a trouvé beaucoup de sources aussi à propos de ça.
C'est pour être sûr que c'était des bonnes sources puis que c'était des vraies affaires, là, qu'on disait.
Est-ce que vous en sortez admirative de Mme Thatcher ou au contraire très critique à l'endroit de ses actions puis de l'héritage politique qu'elle laisse?
Bien, assez critique. T'sais, c'est sûr qu'elle avait ses idées à elle puis... Je pense que la plupart du monde ne pense pas comme ça. T'sais, c'était quand même des idées qui n'étaient pas très correctes nécessairement. Fait que,
C'est ça, c'était des politiques très, très dures, super, un peu extrémistes. Là. Fait que c'est sûr que c'est jamais... On veut tout le temps être un peu plus modéré.
Ouais. Ben, c'est ça, vous associez à son règne ces politiques économiques très dures, mais en même temps, en vers plus reluisant de la médaille, je dirais, vous la créditez d'un rôle absolument crucial et positif dans cette guerre froide, non?
Pas vraiment. Ben, dans le fond, c'est que c'était la première fois qu'il pouvait avoir un espoir de paix. C'est
oui,
sûr qu'on voulait,
oui, oui.
On voulait mettre que c'était la première à aller vers Gorbatchev, je pense.
Oui,
C'est ça. Puis là, c'est la première à essayer de faire que les choses y changent. Mais en même temps, elle a fait des affaires très, 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 comme avec des politiques très, très dures. Fait que c'est sûr qu'il faut tout un milieu là-dedans, puis je trouve qu'elle ne l'avait pas vraiment.
Est-ce que ça vous a donné le goût de persévérer en matière de balado puis de podcast, d'en faire votre propre plaisir? T'as pas l'air sûr, toi?
Ben oui.
Oui?
Ben oui, mais non. Tu sais, c'est sûr que c'était un beau... projet, mais faire ça toute une vie...
C'était beaucoup de travail,
c'est ouais, ça? Oui, c'est ça. T'sais, c'était long, c'était beaucoup de recherches, mais c'était quand même un très beau projet, veux pas, là.
Ben, Sarah-Jane et Camille, merci beaucoup de votre présence ce midi. On va fermer l'émission avec Florence Salva et Guillaume Letendre. Alors, bonjour Florence et Guillaume.
Bonjour.
L'objet de votre balado, vous autres, c'est Nikita Khrouchtchev. Pourquoi? Ouais, c'est dur à dire, hein?
Oui.
Ouais, j'ai pas dû l'avoir trop bien, mais en tout cas. Pourquoi? Ben, tu sais, j'ai la misère à dire Jane. Ben, imaginez Khrouchtchev. Ah! Lui!
Exactement.
Il faut le dire vite. Pourquoi cet acteur-là de la guerre froide? Qu'est-ce qui vous a donné le goût d'un balado sur lui?
Ben, dans le fond, Nikita Khrouchtchev, c'est un soviétique, et puis... À l'école, oui, on parle un peu des deux camps, mais on creuse pas forcément dans les deux camps, dans le fond. Puis je trouvais intéressant d'aller vraiment en profondeur du côté soviétique, puis découvrir un personnage assez important comme Nikita Khrouchtchev.
Florence.
Oui, puis c'était aussi intéressant de voir le côté un peu plus soviétique de la chose, parce que souvent, on est du côté plus américain, veut pas, du côté de nos livres scolaires.
Ce sont nos plus proches voisins. Hein?
Oui, c'est ça. Fait que c'était intéressant de voir le point de vue d'ailleurs.
OK. On va écouter un extrait de votre balado.
Février 1956. Alors que l'ère stalinienne touche le fond, Nikita Khrouchtchev crache sur son prédécesseur. Lors du 20e congrès du Parti communiste, le futur président du Conseil des ministres de l'Union soviétique impose sa vision d'un nouveau monde. Un monde sans son passé, une URSS sans son Staline. C'est ce qu'on veut être un phénomène de déstalinisation. Éliminer les idéaux du petit père des peuples et prôner la coexistence pacifique avec les États-Unis et le monde occidental, là où rivalisent le capitalisme et le communisme. Nous sommes en pleine guerre froide.
Nikita Sergeyevitch Khrouchtchev est né le 3 avril 1894 dans une extrême pauvreté à Kalinovka, un village russe en périphérie de l'actuelle Ukraine. Plus tard connu sous le nom de Monsieur K ou du K, le jeune Nikita enchaîne les emplois et participe à la guerre civile où il se forgera une place au sein de l'armée soviétique.
C'est en 1958 que le gouvernement Khrushchev I entre au pouvoir. Alors nouveau chef du gouvernement, le K se rend aux États-Unis l'année suivante sous invitation du président américain Eisenhower. Ce voyage de 13 jours, qui camoufle certaines tensions, a pour but de renforcer la coexistence pacifique entre communistes et capitalistes. La coexistence pacifique est un concept qui vise à conserver ses idéaux tout en respectant celles des autres et sans venir aux armes.
1er mai 1960, dans le froid de la Sibérie, une alarme sonne chez les Soviétiques. Un avion espion vient d'être repéré. Alors paniqués, les bases militaires de l'armée rouge envoient des missiles sur ce dernier et capturent son pilote, Francis Gary Powers. En découvrant le travail d'espionnage qui est effectué par les Américains en sol communiste, c'est le début d'une crise diplomatique intense.
À août 1961, Nikita Khrushchev apprit Walter Ulbricht, président du Conseil d'État de la République démocratique allemande, sur la décision de construire le mur de Berlin. C'est une claque au visage pour le peuple allemand. Octobre 1962. Toujours sous le pouvoir de Khrushchev, l'URSS installe ses missiles nucléaires en sol cubain avec l'association du révolutionnaire Fidel Castro. C'est la crise des missiles de Cuba. Alors que l'humanité croit disparaître sous les menaces nucléaires de part et d'autre du globe, le K apporte son soutien au régime castriste afin d'instaurer sa puissance nucléaire en Amérique.
Mais aujourd'hui, quelles sont les traces du passé de Khrushchev?
Excellente question. Ce balado vous a valu, comme à Sarah Jane et Camille, un prix coup de cœur du jury. C'est une marque d'appréciation qui vous a fait plaisir. Dans quelle disposition d'esprit avez-vous reçu ce prix-là, Madame la documentariste? C'est le documentariste.
Oui, ben c'était vraiment rassurant puis quand même gratifiant de recevoir ce prix-là parce qu'on a travaillé fort pour essayer d'avoir un texte quand même intéressant puis qui peut rejoindre les gens même s'ils ont moins de connaissances d'un côté historique, sans moins toujours aller du côté information sèche et pas très intéressant.
Oui, ben vous avez intégré aussi du bruitage, la sirène. Et puis, il y a différentes choses. Monter un balado, est-ce que ça s'est avéré une tâche plus ardue qu'il ne vous semblait au départ ou le contraire, c'était plus facile que ça apparaissait?
C'est sûr que pour ce qui est des recherches et l'écriture du texte, c'est une partie assez compliquée. Le montage, par contre, c'est quelque chose qu'on fait depuis plusieurs années là, vraiment à l'école. Donc, je me suis occupé du montage et j'ai pris plaisir à faire ça, à rendre ça dynamique.
Et tu prends plaisir même à l'écouter, le balado, parce que je te voyais sourire, là, la sirène de guerre, t'aimais ça, là, tu te dis, oh, elle est bien placée, puis elle dure juste le bon temps, puis l'autre, elle parle par-dessus, puis c'est intéressant. Qu'est-ce qui est absolument primordial quand on se lance dans la réalisation d'un balado? Quels sont les éléments là, qu'il importe de rassembler pour en faire un bon podcast?
Je vous dirais, même si ça pourrait être surprenant, c'est de trouver des informations qui sont vraies. Parce que au fur et à mesure de nos recherches, on s'est rendu compte que beaucoup de sites ou de sources avaient des visions un petit peu différentes de certains événements, comme quoi des points de vue différents surtout, qui faisaient que certaines informations se contredisaient. Je pense que c'était ça qui était plus...
Mais ça devait être difficile de départager ça, le vrai du faux, là.
Effectivement, fallait vraiment...
Comment avez-vous fait?
Fallait aller chercher dans des banques plus historiques, puis de regarder ce qui se confirme, parce qu'on peut pas se fier seulement à ce qu'une source disait justement pour confirmer ses propos. Là.
Ouais.
Fallait vraiment trouver plusieurs sources qui disaient la même chose pour s'assurer que l'information soit sûre, pour pas dire n'importe quoi non plus.
Ce balado vous aura permis de départager chez Monsieur K, maintenant que je sais qu'on peut l'appeler comme ça, on va l'appeler comme ça, mais moins compliqué, les éléments heureux et moins heureux de la feuille de route politique. Vous en sortez comment? Très critique, partagé sur son action puis son legs. Quel sentiment là, vous anime à son égard?
Je vous dirais que je suis pas mal des deux côtés, sans en prendre un plus que l'autre, parce qu'on peut remarquer justement qu'il avait aidé à tout ce qui était la déstalinisation, puis à sortir un peu de ce régime-là qui était très strict et pas très confortable. Mais on peut aussi voir que ses actes n'étaient pas toujours très positifs, là, comme on se fie sur le mur de Berlin qui va avoir détruit des familles entières.
Et aussi, c'est un monde complètement différent, l'URSS. C'est complètement différent aujourd'hui. Puis c'était intéressant de vraiment aller chercher un autre point de vue de la vie et puis regarder d'un autre point de vue de la guerre froide, tu sais, comment... La crise des missiles de Cuba, on la connaît beaucoup du côté des États-Unis, mais du côté de l'URSS, ça donnait quoi?
Ah ouais. Ah, c'est un travail qui, que je comprends, c'est qu'il a stimulé votre intérêt pour cette partie de l'histoire de l'humanité?
Oui, quand même beaucoup. Ça éveille une curiosité qu'on n'avait peut-être pas nécessairement à ce sujet-là avant de faire les recherches.
Qu'est-ce que vous diriez de la soif de votre génération pour l'histoire? Est-ce que c'est une génération informée, engagée, votre génération?
Je crois que oui, on essaye d'apprendre l'histoire pour répéter les mêmes erreurs, même si parfois la question se pose. Mais je crois qu'on est assez informé et puis faut juste se donner le temps de vraiment pousser nos recherches et puis comprendre ce qui se cache vraiment derrière l'histoire.
Merci beaucoup, Florence et Guillaume. David Foster, vous avez bien attentivement écouté là, les autrices et les auteurs de ces balados primés. Ça nous dit qu'il se passe de belles choses dans nos écoles publiques, dont les médias retiennent malheureusement peut-être davantage les comptes sombres. Mais ce midi, on a assisté à un exercice là, passionnant. Hein.
Puis c'est avec fierté que je présente les équipes que vous avez devant vous. Mais pour réaliser un projet comme ça, tu sais, ça témoigne du potentiel de nos élèves, ça témoigne de leur effort, de leur travail, de leur intérêt. Puis à les écouter parler ce midi, je suis content de voir que ça s'en va dans les directions que j'aurais pas pu prévoir. Mais c'est avec beaucoup de fierté, avec d'humilité également, de les voir répondre à des questions que le projet les avait peut-être pas nécessairement préparées, qui sont capables de donner des avis, prendre position. Non, les élèves que vous avez devant vous, que vous avez écouté ce midi, là, c'est une relève là, qui est fiable puis qui me rassure là, à long terme.
Ça donne confiance à l'avenir, hein? Oui. L'avenir de la région, l'avenir du Québec, l'avenir de l'humanité. Non, mais c'est vrai, je n'exagère pas, c'est vrai. Mm-hmm. Prenez-le pendant que ça passe, pendant que c'est les fleurs, là, à un moment donné, peut-être que le pot. Hein? Alors, merci beaucoup, David, de nous les avoir fait connaître. Merci et compliments renouvelés à elle et eux pour leur balado et leur recherche. À la tribune, à cette émission mardi prochain, on va s'intéresser à la saison touristique 2026 chez nous. À la semaine prochaine.